Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour, je vous laisse vous présenter.
Bonjour, je suis Pascale Roussel, je suis donc la nouvelle présidente de la Cour administrative d'appel de Nancy et j'ai pris mes fonctions le 1er septembre 2023.
Alors dans ce portrait, on va revenir un peu sur vous, sur votre parcours, sur votre vie et sur vos fonctions. Donc vous êtes Lorraine d'origine, plus précisément d'Audun-le-Roman.
Tout à fait.
Issu d'une famille de cheminots avec des grands-parents agriculteurs. Quel lien entretenez-vous avec cette région ?
Ah, alors un lien très fort, hein. Comme vous venez de le rappeler, je suis originaire du Pays Haut, toute ma famille est originaire alors, du Pays Haut du côté de ma mère et de la région Messine du côté de mon père, donc c'est là que j'ai passé mon enfance, à Longwy, j'ai fréquenté les écoles publiques de la région, et puis ensuite l'université, le lycée, puis l'université à Metz, et donc mon époux est lorrain aussi, il est originaire de Metz également, et mon fils unique travaille à Metz, donc on est vraiment très très ancré dans la région.
Donc vous avez obtenu dans cette région-là une licence de droit et un DESS en gestion des collectivités locales à Metz.
Oui.
Vous dites avoir découvert le droit public par hasard à 18 ans. Et au fond, qu'est-ce qui vous a poussé vers ces études ?
Alors, en fait, le droit... j'étais originaire d'une famille ouvrière et donc personne n'avait vraiment connaissance de ce qui se passait à l'université. Comme je me débrouillais plutôt bien à l'école, c'est vrai que c'est devenu assez naturel de poursuivre. Et à l'université, vos auditeurs le savent peut-être, le droit, en première année, on y va souvent par hasard, et c'est là qu'on découvre un certain nombre de matières. Et moi, j'ai découvert effectivement le droit public en deuxième année de droit. Et là, j'ai eu une révélation. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé que c'était vivant, que c'était concret. Et donc, je me suis quand même particulièrement intéressée à cette branche du droit public. Et c'est pour ça que je parle de hasard, parce que effectivement, quand j'ai vu l'emploi du temps en début d'année, j'avoue que je ne pensais jamais que ça allait m'intéresser à ce point-là.
Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans cette matière, sachant que parfois, c'est un peu vu comme une matière austère.
Ouais. Alors, ce qui m'a plu, c'est une forme de rigueur. C'est-à-dire que j'ai trouvé intéressant la construction de la jurisprudence. C'est un droit qui repose entièrement sur la jurisprudence. La procédure, elle est très simple. On a un seul code. Il y a très peu de textes qui régissent l'organisation des juridictions administratives. Et le droit public en lui-même, il s'est construit par la jurisprudence du Conseil d'État et du tribunal des conflits aussi en complément, et des autres juridictions administratives. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très, très théorique, mais très concret aussi. Et c'est vrai que l'austérité fait que si on ne connaît pas la jurisprudence, on n'a pas les repères pour pouvoir s'y retrouver dans le contentieux administratif. Mais moi, ça me plaisait énormément, ce mode de raisonnement.
Ce qui vous a plu, c'était peut-être de découvrir quelque chose qui est assez méconnu au final.
Oui, un peu aussi un sentiment d'avoir accès à une information qui est quand même assez peu connue et qui m'a particulièrement intéressée, et surtout un droit, on y reviendra peut-être, mais qui est vraiment au cœur de la vie de nos concitoyens. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. C'est-à-dire que quand vous faites des études de droit, on vous parle de divorce, on vous parle de filiation, on vous parle de plein de choses. Bon, c'est pas nécessairement ce qui se passe tous les jours. Alors que contester une décision de l'administration, voir la responsabilité de l'administration engagée, les élections, la vie publique, la vie politique, c'est vraiment notre quotidien. Ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé.
On reviendra sur cet aspect un peu plus tard dans l'interview. On continue sur votre parcours, votre genèse. Vous avez travaillé pour l'éducation nationale, au rectorat à Dijon, entre 1991 et 1993. Puis, vous avez passé le concours de la juridiction administrative en 1993. Racontez-nous un peu cette époque.
Alors, en fait, j'ai commencé à travailler relativement jeune dans la fonction publique, puisque j'ai passé, avant j'étais élève fonctionnaire à l'Institut Régional d'Administration de Metz, Et c'est vrai qu'à 27, 28 ans, j'avais quand même déjà pratiquement une longue carrière derrière moi. Et c'est là que, surtout, j'avais vraiment commencé à apprécier le droit public. Donc, à cette époque-là, avait été offerte la possibilité d'accéder aux juridictions administratives par le biais d'un concours direct. Jusque-là, c'était réservé à la voie de l'École nationale d'administration et, compte tenu des besoins importants qu'il y avait, a été ouvert un concours direct. Donc, je me suis intéressée à ce concours. Pour préparer le concours, j'ai suivi des formations, des préparations. Et pour m'entraîner, entre guillemets, alors je sais que ça peut paraître un peu prétentieux de dire cela, mais pour m'entraîner, j'ai passé plusieurs concours. Et il se trouve que j'ai eu celui de l'Éducation nationale. Je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi pas? Si j'arrive pas à avoir le concours de magistrat, ce sera toujours une nouvelle orientation dans ma carrière. Et donc, c'est pour ça que je suis allée 2 ans, pour ça que je dis souvent que je suis allée 2 ans par hasard à l'Éducation nationale, parce que c'est vrai qu'il se trouve que j'ai eu ce concours, donc j'y suis allée. J'ai trouvé ça, là aussi, très intéressant. Les enjeux sont considérables. C'était vraiment une très, très belle expérience. Mon idée, c'était quand même toujours d'intégrer la juridiction administrative. Donc, 2 ans après, j'ai passé le concours direct d'entrée dans la juridiction. Et là, donc, j'ai intégré la juridiction en 93, directement.
Vous êtes rentré, comme vous le dites, assez tôt dans une vie professionnelle. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de votre enfance, votre adolescence et ce passage, en fait, assez jeune, finalement, à des responsabilités d'adulte?
Oui, alors, d'une part, c'est que finalement, j'ai l'impression que c'était hier, alors que je me rends compte que ça va faire 40 ans. Ça fait plus de 40 ans, même. Donc, c'est là qu'on se dit vraiment que le temps passe très, très vite. Effectivement, je me suis retrouvée, l'Institut régional d'administration prépare aux fonctions d'attaché, donc de cadre-là, donc d'encadrant de la fonction publique. Moi, j'avais donc 20 ans. Pendant longtemps, on m'avait fait observer que j'étais trop jeune. Hein, vous êtes trop jeune pour être chef de bureau, vous êtes trop jeune pour ceci. Et puis à un moment, c'est ce que j'avais d'ailleurs dit à un chef de juridiction, j'ai dit, à force d'être trop jeune, un jour je serai trop vieille et j'aurais pas vu le temps passer. Et effectivement, pendant longtemps, j'ai souvent été, j'ai été nommée pour la première fois à la cour de Nancy en 98, j'étais là encore nettement la plus jeune de tous les magistrats de la cour. Enfin, j'ai souvent été la plus jeune. Et après, on se rend compte que maintenant, c'est moi la plus vieille.
Donc, être la plus jeune à cette époque-là, est-ce que c'était, entre guillemets, un handicap? Est-ce qu'il fallait peut-être faire ses preuves?
Il fallait faire ses preuves à double titre. La première étant la plus jeune, effectivement, puis la deuxième étant quand même une femme. Donc, dans certains milieux, ce n'était pas nécessairement très, très évident. Maintenant, la haute fonction publique, c'est quand même considérablement ouverte aux femmes. Mais il y a 30 ans, c'était pas si évident que ça. Et donc, la jeunesse associée effectivement au fait d'être une femme m'a effectivement amenée peut-être à en faire plus, quoi, pour pouvoir justifier de ma légitimité à occuper certaines fonctions.
Ce qui vous a poussé aussi, c'est peut-être cette passion que vous avez développée très vite.
Tout à fait, la passion qui m'a développée, qui m'a poussée très vite. Et puis, justement, le fait de vouloir à tout prix aboutir à cet objectif qui était celui d'intégrer la juridiction administrative m'a aussi amené à faire des préparations, à passer ce concours. Je suis allée 2 ans à Dijon. J'ai pu faire ça aussi grâce au soutien familial, puisque mon époux, lui, assurait la logistique derrière. Mais bon, c'était un choix qu'on a fait dès le départ, et puis on était très, très heureux de ce choix. Mais c'est vrai que c'est aussi certains sacrifices que l'on peut faire, mais avec le recul, j'ai aucun regret.
En parcourant un peu votre évolution, on sent quand même une certaine détermination, une certaine volonté. Est-ce que vous la tirez de votre enfance? D'ailleurs, cette enfance, elle était comment?
Moi j'ai eu une enfance royale, une enfance heureuse. Entre mes parents et mes grands-parents qui étaient très aimants, moi, j'étais une enfant gâtée, je le reconnais. Et justement, mes parents m'ont toujours poussée, accompagnée. Mon père, qui avait commencé comme apprenti à 14 ans, son grand regret, ça avait toujours été de ne pas suivre d'études. Et donc, quand il a vu que sa fille était un petit peu douée pour quelque chose, il m'a poussée énormément, il était très, très fier. Et maman était aussi, elle avait son certificat d'études, elle a jamais, elle était, comme on dit, mère au foyer, mais en réalité, elle travaillait gratuitement, parce qu'à l'époque c'était ça, dans le commerce qu'avait monté ma grand-mère sur ses, à la fin de sa vie. Et donc finalement, on a effectivement, j'ai eu un environnement, moi j'ai eu une enfance très très heureuse, très très heureuse. Les mercredis, enfin les jeudis, à l'époque c'était les jeudis, j'allais chez ma grand-mère, qui m'a quasiment élevée tout le temps, parce que mon père étant cheminot, il était souvent parti, et on était chez mes grands-parents, et non, c'était une enfance idéale.
Et cette force-là aussi, parce que vous avez grandi dans un milieu plutôt rural.
Oui, oui.
Et ensuite, vous avez évolué à l'université, etc., ouais. En ville. Est-ce que ça aussi, ces mutations-là vous ont apporté, vous ont enrichi?
Alors, au début, j'avoue que j'étais un petit peu... pas mal à l'aise, mais je sentais bien que j'étais pas du même monde que certains de mes camarades. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais des connaissances qui étaient tout aussi fortes, voire plus fortes que les leurs sur certains domaines. Et puis je me suis dit que c'était aussi une force de garder son ancrage, ses racines. C'est quelque chose d'important, et puis c'est un peu de bon sens parfois, très 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 pratique. Je cite souvent ma grand-mère, mais qui était une femme pleine de bon sens. Et donc ça peut parfois avoir certains atouts.
Quelle citation de votre grand-mère vous vient?
Oh, la première qui me vient, c'est: ça durera moins longtemps que les contributions. Pour quelqu'un qui, comme moi, a fait beaucoup de droit fiscal, je trouve que la formule est toujours...
Ça fait sens. Alors on va revenir sur votre évolution. Vous avez gravi les échelons jusqu'en 2009, et cette année-là, vous êtes promue au grade de présidente. C'était à Strasbourg, ouais, dans un premier temps. Ouais. Là aussi, qu'est-ce que vous retenez de cette période?
Qu'est-ce que je retiens de cette période? Ça m'a permis de commencer, justement, quand je parlais d'être trop jeune et après d'être plus vieille, ça m'a permis de commencer à encadrer des équipes. Quand on se retrouve à présider une chambre dans une juridiction, la chambre, c'est donc la formation de jugement. Dans une juridiction administrative, c'est 3 personnes, plus des agents de greffe. Donc on commence à se retrouver avec des collègues qui sont plus jeunes que soi, à devoir les accompagner, les aider, les guider, leur expliquer que ben non, on ne fait pas comme ça, ou il faudrait mieux faire comme ça. Au contraire, on est parfois... Moi, j'ai rencontré des jeunes collègues totalement, totalement brillants. Je me suis aussi beaucoup investie dans le domaine de la formation. On parlait de l'Institut Régional d'Administration tout à l'heure. J'y suis retournée à de nombreuses reprises pour former les nouveaux fonctionnaires. Et c'est là aussi que j'ai rencontré des jeunes gens, des jeunes femmes, qui étaient pleins d'enthousiasme, que j'ai pu, entre guillemets, initier au contentieux administratif. Et plusieurs, dont certains travaillent ici aujourd'hui, et j'en suis très très heureuse, parce que j'ai le sentiment de les avoir un petit peu guidés sur cette voie. Et donc président de chambre, c'est ça, c'est passer déjà à une étape d'encadrement qui est quand même très intéressante. C'est aussi une lourde responsabilité, parce qu'on a aussi à gérer les référés administratifs, donc les procédures d'urgence, seules. Et là, ça peut être parfois très 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 lourd.
Est-ce qu'il y a une journée type d'une présidente de chambre?
Présidente de chambre, oui, en général, enfin oui et non. Il y a toute une phase d'étude des dossiers que les magistrats auront préparé, justement, pour faire ce travail de ce qu'on appelle de révision, c'est-à-dire de vérification. Il y a quelques réunions avec le greffe, il y a les urgences l'après-midi, il y a les délibérés. Enfin, il y a pas véritablement une journée type, mais il y a des actions que l'on retrouve de manière très régulière, puisque les audiences en tribunal se passent tous les 15 jours, donc le rythme est assez soutenu. Et puis, il y a les rencontres avec nos partenaires extérieurs, que ce soit les administrations, les avocats. On essaye aussi d'entretenir des liens avec pas mal de partenaires. Ça, c'est le président de chambre s'occupe un peu de ces aspects-là aussi. On essaie de les associer au maximum à ça.
Toujours en évoluant, s'ensuit une présidence à Nice, une présidence de 3 ans, puis une présidence d'un an à Marseille. Oui. Est-ce que vous avez pu observer des différences à la tête de ces différents tribunaux?
Alors, mon premier poste de chef de juridiction, donc de président de tribunal, c'était donc à Nancy. Nancy, c'est trois chambres, c'est une quinzaine de magistrats, c'est une petite structure. À l'échelle de la juridiction administrative, ça fait partie des petites juridictions. J'y suis restée à peu près 2 ans. J'ai fait mes premières armes. Et donc après, je suis partie à Nice, où là, j'ai doublé. Doublé, c'est-à-dire une trentaine de magistrats, une cinquantaine d'agents. Donc là, ça commence à être un petit peu plus important. La structure, ce qui m'a frappé, c'est la structure du contentieux qui est totalement différente. À Nice, énormément de contentieux d'urbanisme, liés à la pression foncière sur la Côte d'Azur, énormément de dossiers fiscaux aussi, mais liés aussi à l'argent circulant sur cette zone du territoire, avec des problématiques assez atypiques quand même de conventions internationales. Quand vous commencez à appliquer la convention bilatérale franco-philippine ou franco-saoudienne, c'est pas à Nancy qu'on fait ce genre de choses. Voilà. Et puis une grosse problématique de gestion des ressources humaines, parce que là, je me retrouve avec une équipe de à peu près 70 personnes, donc ça commence à être une grosse unité. Et en termes de taille et d'impondérable, là, le summum est atteint à Marseille avec une quarantaine de magistrats et pratiquement 55 agents de greffe. Donc là, si on prend également toutes les aides à la décision, on est au-delà de la centaine, dans un bâtiment qui en plus venait d'être complètement rénové, donc avec de grosses problématiques immobilières aussi, des fuites, des problèmes de panne électrique, enfin des choses inhérentes à tout bâtiment neuf. Hein, donc, et puis une ville, Marseille, qui est quand même... Nice est déjà une grande métropole, avec des problématiques particulières, notamment en termes d'ordre public, des choses comme ça. Des fortes personnalités aussi à la tête des collectivités. Hein. Le maire de Nice est quand même assez connu pour certaines idées. Et Marseille, c'est une métropole... Personnellement, j'ai adoré Marseille. En tant que Lorraine, je ne pensais pas aimer autant cette ville, parce que c'est vraiment l'anti-Lorraine à tout point de vue.
En quoi ?
C'est la fantaisie. Il y a beaucoup de fantaisie, beaucoup d'improvisation, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de bruit, beaucoup de soleil. c'est une ville qui bouge tout le temps, qui ne dort jamais, qui est très 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 vivante, très à l'inverse de Nice, qui est une ville touristique par excellence, avec quand même pas mal de retraités aussi, mais beaucoup de touristes. Donc on a un peu un sentiment d'apparence à Nice, alors qu'à Marseille, c'est les vrais gens qui vivent dans la ville, au cœur de la ville, avec leurs problématiques, avec leurs soucis. Et puis c'est quand même une énorme métropole, hein, donc, qui est quand même assez intéressante à voir fonctionner.
Et quelles problématiques ressortaient le plus à Marseille ?
Alors à Marseille, c'était principalement, là aussi, des problèmes d'urbanisme, mais pas les mêmes qu'à Nice. C'est-à-dire qu'à Nice, on allait avoir des problèmes d'application de la loi littorale, de construction de bâtiments de prestige ou de bâtiments de luxe, alors qu'à Marseille, c'est des constructions plus de grands ensembles sociaux, ça va être des constructions aussi d'ensembles industriels. Donc on a tout l'aspect industriel et que l'on n'a pas du tout sur la côte d'Azur et du côté de Nice.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été, y a plein d'enfants qui se roule sur la pelouse, y a plein de chiens, y a même un chat une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie surprend. Plus d'un million d'années. Et toujours en été.
Heures, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
On va revenir sur votre côté passionné. Vous expliquez que ce métier est un sacerdoce et vous avez même utilisé le terme de travail d'artisan pour définir votre profession. En quoi est-ce comparable d'être présidente de la cour administrative d'appel et d'être un artisan?
Alors, présidente de la cour administrative d'appel, je suis plus un artisan puisque maintenant j'encadre, je pilote les artisans. Mais néanmoins, le travail des magistrats et donc par certains aspects le mien aussi, je dis que c'est un travail d'artisan parce que en fait nous travaillons à partir de dossiers. Je crois qu'il faut vraiment comprendre que le juge administratif, c'est un homme ou une femme qui va travailler sur un dossier. Dossier qui lui est présenté par un requérant, donc quelqu'un qui saisit le juge et qui lui demande quelque chose. En face, on va avoir une administration qui va défendre sa position aussi au travers de production écrite. Donc, lorsque les échanges, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contradictoire, a eu lieu, on se retrouve avec une masse d'écritures. Et là, c'est là que commence le travail du juge administratif qui va devoir analyser ces écritures, qui va devoir identifier la problématique qui se pose, qui va devoir rechercher les textes pour vérifier que c'est bien les bons qui ont été invoqués par l'un et par l'autre, et qui va devoir monter un raisonnement de manière à trouver une solution qui soit conforme à la loi et qui permette de résoudre le litige qui lui a été posé. Donc, on est des artisans en ce sens que Il faut tout faire. Alors, on a des aides qui peuvent nous assister pour des recherches documentaires, mais souvent, la recherche est quand même le travail, dans la quasi-totalité des cas, c'est quand même le travail personnel des magistrats de rechercher. À partir de là, ils vont rédiger une note destinée au président de la Chambre, par exemple, aux autres collègues, de manière à présenter le dossier, à présenter les solutions. Et donc, on a vraiment un travail complet, et ce travail se termine par la rédaction du jugement, ou de l'arrêt si on est en cours, c'est-à-dire le produit fini, la décision qui va être ensuite adoptée par l'ensemble de la formation de jugement. Donc c'est un travail d'élaboration complète de A à Z d'une solution, et de découverte d'un dossier. Quand on ouvre un dossier, on ne sait jamais trop ce qu'on va y trouver. On a juste quelques lignes d'indication de résumé. Monsieur Machin demande ceci. Bon, et après, ben on part à la découverte.
Donc la recherche, elle représente, si on veut donner un pourcentage dans le travail.
C'est la recherche. Alors ça va vraiment dépendre du dossier. Il y a des dossiers pour lesquels le travail de recherche va être assez restreint, mais il peut arriver que sur certains dossiers, par exemple, nous avons en charge le contentieux des marchés publics, c'est-à-dire que lorsqu'une collectivité passe un contrat pour la construction d'un ensemble scolaire, par exemple, eh bien, la collectivité va passer des marchés. Il se peut qu'au moment du paiement du marché, il y a des soucis, il y a eu des travaux en plus, des travaux en moins, il y a eu des malfaçons, enfin, il peut y avoir plein de choses. Un dossier de marché, ça peut occuper un magistrat pendant plus d'une semaine, 8-10 jours.
Un seul dossier,
voilà. Et puis à côté, on peut avoir des dossiers, entre guillemets, simples, d'une exonération de taxes foncières, par exemple. La personne dit je dois être exonérée parce que j'ai plus de 70 ans et que j'ai pas de ressources, alors qu'en fait, elle vit avec quelqu'un qui a lui-même des ressources. Donc, je veux dire, ça peut aller très très facilement à la solution. Et c'est ce qui fait l'équilibre, c'est ce qui fait aussi la difficulté à gérer certains dossiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que des gros dossiers. Il faut à un moment essayer d'équilibrer avec des petits qui sont un peu plus faciles ou qui paraissent plus faciles. Parce que parfois, au détour d'un dossier simple, se trouve une chose trappe qu'on n'avait pas vue au départ.
Et justement, là, on sent vraiment la passion, comme vous exprimez sur ces sujets, qui dit passion, dit exigence. Pour vous, la justice est un devoir, je vous cite, on rend la justice au nom du peuple français.
Absolument.
On la doit à nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous affirmer en ce qui concerne vos méthodes de travail?
Alors, la justice administrative repose sur un certain nombre de fondamentaux, et parmi ces fondamentaux, il y en a un auquel nous sommes très attachés, qui est la collégialité. C'est-à-dire que nous essayons au maximum de rendre les décisions de manière collégiale, c'est-à-dire à trois magistrats, plus auparavant l'avis du rapporteur public, qui est donc un magistrat qui ne participe pas à la formation de jugement, mais qui est celui qui va présenter des conclusions à l'audience. Donc on a une justice qui est le fruit du travail du rapporteur, qui va donc préparer, comme je vous le disais, complètement le dossier. Ensuite, ce dossier va être revu par le président de chambre, donc deuxième regard. Ensuite, c'est le rapporteur public qui va présenter ses conclusions. Et à la fin, la formation collégiale va délibérer. Donc on a une exigence très forte de qualité, parce que lorsqu'on présente un dossier comme ça, on le présente effectivement de la manière la plus complète possible. Et on est sous le regard croisé à la fois du président de chambre, mais aussi de l'autre assesseur qui va contribuer à la formation de jugement. Donc il y a une exigence de qualité. Parce que la solution, c'est quand même un jugement. Je veux dire, c'est ce qui va trancher un litige qui oppose une administration, enfin un particulier à une administration, ou deux administrations entre elles. Mais c'est pas simplement on va dire ça. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On doit exposer le raisonnement. Et un des éléments qui est à noter, c'est que on ne peut pas s'abstenir, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre position. Le juge, s'il hésite, il faut peut-être qu'il hésite, qu'il revoie sa copie, qu'il rediscute, qu'il retravaille certaines questions, mais à un moment, il doit décider, il ne peut pas s'abstenir. Et donc c'est aussi une exigence très forte de et on doit cette exigence justement au fait que on rend la justice au nom du peuple français. Moi ma légitimité finalement elle vient de là, c'est-à-dire que j'ai passé un concours donc on peut m'accorder que j'ai répondu à certaines exigences de connaissances.
C'est un argument d'autorité.
Voilà, c'est un argument d'autorité, mais j'ai pas été élu, je ne rends pas de compte sur le contenu de mes décisions. En revanche, j'estime que j'ai un devoir, et nous avons un devoir moral de rendre cette justice au nom du peuple français. On doit une qualité au peuple français, qui nous rémunère aussi, hein, par le biais de, puisque nous sommes agents publics, donc nous sommes payés par les deniers publics, et on doit effectivement avoir cette qualité d'exigence-là.
On a parlé de...
Cette exigence de qualité,
pardon. Cette exigence de qualité, bien sûr. Alors, on a parlé de qualité, on ne peut pas omettre la question de la quantité.
Oui.
Sur le bilan de l'année 2022, donc pour la Cour administrative d'appel, en quelques chiffres, c'est 3176 affaires jugées, 10 mois et 22 jours de délai moyen pour un jugement. Je vous laisse commenter ces chiffres.
Alors, 3200 affaires jugées à peu près, c'est un chiffre qui correspond à peu près à notre capacité de jugement compte tenu du nombre de magistrats, puisque nous sommes 25, et de nos méthodes de travail. Hein, là aussi, on pourrait, dans un monde idéal, dire qu'à 25, on pourrait sortir plus de décisions, mais après, il faut faire des choix. Si vous voulez, moi, demain, je vous en sors 150 des décisions. Hein, avec un traitement de texte, je peux vous sortir tout ce que vous voulez, mais si ça n'a pas de sens, si c'est pas argumenté, si c'est pas conforme à la loi, ça n'a absolument aucune utilité. Donc, si on essaye de respecter cette exigence de qualité, 3200 décisions, c'est tout à fait correct, et on est à peu près calibré. Il nous faudrait peut-être un ou deux magistrats de plus, mais on est à peu près calibré pour ces sorties-là. Et pour surtout tenir ce fameux délai de jugement qui est quand même assez, assez correct, puisqu'on est largement en dessous des un an de jugement. L'objectif de qui nous est fixé par le législateur, normalement, c'est 11 mois. Donc on est à 10 mois et 22, qui peuvent couvrir des situations très, très diverses. Hein. 10 mois 22, c'est une moyenne, et comme toute moyenne, ben, y a des éléments très hauts et des éléments très bas qui font que ceci constitue une moyenne. Nous avons beaucoup de contentieux liés à la situation des étrangers, dans lesquels nous sommes obligés de juger dans des délais relativement restreints.
Pour les OQTF,
pour les OQTF, voilà. On est obligé de juger, on juge dans des délais restreints, de manière à éviter que des situations ne se pérennisent de manière totalement anormale. Et à l'inverse, je parlais tout à l'heure d'un dossier de marché public ou de certains gros dossiers de responsabilité hospitalière, où on va avoir des expertises, des contre-expertises. On a certains dossiers, nos plus vieux dossiers, nous avons trois dossiers de 2018 qui sont liés à des expertises. Alors, 2018, ça peut paraître énorme, mais faut aussi relativiser. Là encore, ma grand-mère disait aussi, plaie d'argent n'est pas mortelle. Il faut savoir qu'au moment où on jugera l'affaire, eh bien, celui qui gagnera obtiendra aussi des dommages d'intérêt à compter de la date de sa demande. Donc, ça viendra compenser un peu le temps qui aura passé. Et c'est vrai que ce sont souvent des entreprises ou des assureurs, donc l'impact pour ces, même si 5 ans c'est beaucoup trop long, j'en conviens, mais je veux dire, c'est pas la même chose que pour une personne qui attend pendant 5 ans une solution, un particulier. Là on est sur des gros dossiers, et finalement mieux vaut prendre un petit peu plus de temps mais donner une bonne solution plutôt que de sortir un dossier, de les amener à faire un pourvoi devant le Conseil d'État qui nous renverra. Enfin, au final, ce ne serait pas nécessairement plus productif de vouloir aller plus vite.
Ça revient à ce que vous disiez auparavant, le fait de trancher exige une qualité.
Une qualité, voilà, tout à fait. Je préfère prendre 3 mois de plus ou 6 mois de plus et donner une solution définitive à un litige plutôt que d'oublier de répondre à certains arguments ou de faire une réponse qui ne soit pas suffisamment motivée, et puis de me retrouver avec un pourvoi en cassation qui va amener le Conseil d'État à nous censurer. Enfin, je veux dire, au final, personne n'est gagnant. Personne n'est gagnant. Donc je crois qu'il est mieux quand même de garantir la qualité des décisions et puis de prendre le temps qui est nécessaire, sachant qu'on n'en abuse pas et que on consacre toute l'énergie possible à sortir les décisions.
Ain't shining bright enough. It's like the devil's trying to work to give an idol up. And though I'm blessed, I still gotta handle the things I go through. It's good to have a friend with another perspective to show you. Someone you know that knows you and gives you motivation. Someone that you could go to and vent your frustrations. We always talk about our peeps, how we be everywhere. When you need them the most, are they really ever there? See, everything be all good when we be having fun. The difference is really needing a friend and having one. It's good when your people just there to help your problems and help you smile about it while finding a way to solve them. Look at here, let me keep it 100 and let me tell you how you hold me down is something I genuinely value. I got a clearer view, and being that you're always there for me, I'm here for you.
I made a decision, despite all the things that we go through. I'm gonna take my time with you.
Baby, but I'm saying, even though we probably link up every now and then with minimal combo, look, it's really good to see you, friend. Something I realize that I don't even have to mention is whether or not you got me. That's something I never question. Sometimes I feel the people I love don't appreciate me. And some I hate, you see the shit I've been going through lately. See, you was here when the shit started to haywire. You're still here walking with me, going through the fire. And I really love you for it. I know you all relate to on everything that I believe and I appreciate you. And just for that, it don't matter, you can put that on my name. The way you rep me, let me be there just for you the same. Sometimes the pressure and the pain will be wearing me out, but I thank you just for being there and for hearing me out. I got a clearer view. I thank God that you've been there for me. I'm here for you.
I made a decision, despite all the things that we go through. I'm gonna take my time with you and be a friend indeed. I made a decision, everything's gonna be alright. Gonna stay strong and keep it tight.
Look in the eye, and I see the pain in it. Life's a game, huh? Maybe the game did it. I know I changed, they say that fame did it. Life has changed, huh? Maybe the game did it. Two friends now in two different places. In the midst of catching planes and you catching cases. Friendship, we never based it on position. No matter the game, we both shared the same vision. Decisions to split us in the place that life seemed to hit us. I would come to town and never get up with you. Around then, things weren't so simple. I had my own issues that I was trying to get through. Outside chatter, messing with our mental. On the chase for funds, to trust you can't forget to. It's the real friends that you gotta tend to. No matter how far, I go, just know that I'm with you.
Despite all the things that we go through, I'm gonna take my time with you.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
En acceptant ce poste, quels défis vous attendent ?
Alors, le défi principal, c'est que la Cour de Nancy, et j'en rends grâce à ma prédécesseure Sylvie Savier, est plutôt dans une bonne situation. Le défi principal, c'est d'arriver à préserver cette bonne situation, c'est-à-dire d'avoir justement ce qu'on appelle un taux de couverture. Le taux de couverture, c'est de sortir autant d'affaires qu'il en est entré, hein, pas nécessairement les mêmes, mais d'avoir, si on rentre 100 affaires, il faut en sortir 100. Et donc, si on a un bon taux de couverture, ça permet quand même aussi de préserver justement le vieillissement du stock, de préserver les délais de jugement. Donc ça, c'est un premier point. D'avoir aussi la préservation d'un taux de confirmation par le juge de cassation qui est tout à fait honorable. Et de garder aussi, ça j'y tiens beaucoup, en parallèle, une bonne ambiance de travail et de bonnes conditions de travail pour l'ensemble des magistrats et des agents. Parce que ça compte aussi énormément. Si les agents et les magistrats ne se plaisent pas là où ils sont, on a perdu quand même une partie de notre capacité à bien faire les choses.
Donc cette question de taux de couverture, elle est primordiale.
Elle est importante, mais elle est très importante. Là, on a un petit souci cette année, mais c'est un souci tout à fait ponctuel, puisqu'on a eu un afflux de dossiers, d'environ 600 dossiers, 500-600 dossiers, mais lié à un problème purement technique et mécanique de déblocage de décisions à un moment donné. Ce qui fait qu'on a effectivement cette année un mauvais taux, enfin c'est plutôt mal engagé, mais on va essayer de remonter la pente et de sortir ça dans les meilleurs délais.
Donc votre prédécesseur que vous avez mentionné, Sylvie Favier, c'était une adepte de la médiation. Qu'en sera-t-il désormais ?
Même chose. Alors, j'ai une différence avec Sylvie Favier, c'est qu'elle-même pratiquait des médiations et avait suivi une formation de médiateur. Et d'ailleurs, maintenant qu'elle va être retraitée, elle va même s'y consacrer encore plus. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas eu cette formation et je pense que j'ai peut-être pas les prédispositions à être médiateur moi-même. Mais en revanche, la médiation, j'y crois. Je crois vraiment que c'est une manière de résoudre non pas un dossier, mais un litige. C'est-à-dire que le contentieux peut trouver son origine dans plein d'éléments, de facteurs. Et vous aurez beau donner une réponse dans un jugement, si vous ne coupez pas le problème à la source, vous allez vous retrouver 2 ans après ou 6 mois après, toujours avec les mêmes personnes qui reviennent parce que vous n'aurez pas résolu leur vrai problème. Et la médiation, ça c'est vraiment l'élément qui nous permet de résoudre un vrai problème et de donner satisfaction et d'éviter que les gens reviennent et finalement ne soient pas satisfaits, parce que on peut gagner au contentieux sans pour autant être satisfait. C'est parfois ce qui est un peu difficile à comprendre pour certaines personnes, mais ce n'est pas parce que vous allez obtenir l'annulation d'une décision que pour autant vous allez obtenir ce que vous vouliez au départ. Et c'est vrai que la médiation permet effectivement de résoudre certains litiges qui sont plus ancrés, plus anciens. Et donc on va continuer à encourager et à proposer des médiations. Et là encore, c'est pas, enfin, je pense que Sylvie avait dû vous l'expliquer, c'est pas du tout une solution de facilité, c'est pas du tout pour se débarrasser de dossiers, c'est pour apporter une solution. C'est pas les 20, 15 ou 20 médiations qu'on va faire dans l'année qui vont nous permettre de sauver notre taux de couverture ou notre stock ou autre. C'est autre chose. Et d'ailleurs, on parle de médiation, les médiations s'inscrivent dans un contexte plus général qui est les modes alternatifs de règlement des litiges, qu'on appelle les marles. Il y a la conciliation, il y a la transaction, enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment un mode alternatif. Donc, moi, j'y crois vraiment et on va continuer à proposer et à encourager les médiations dans tous les domaines, d'ailleurs, que ce soit fonction publique, responsabilité hospitalière ou marché public.
Il y a un pôle spécifique qui s'occupe des médiations.
Tout à fait. Alors, auparavant, c'était donc Sylvie Favier qui pilotait un peu cette action. Là, j'ai confié cette mission à une présidente de la Cour qui, avec la greffière en chef adjointe, voit tous les dossiers qui sont susceptibles de donner lieu à médiation, propose, échange, font des suggestions, trouve les médiateurs. Enfin, elles font un gros travail toutes les deux pour mener à bien ces médiations.
La médiation peut être utilisée dans des situations individuelles pour des marchés publics. Est-ce qu'il y a des exemples significatifs de réussite ?
Alors, notre plus belle réussite, alors je dis notre de la Cour, c'est la médiation qui a permis de débloquer le dossier de Nancy Thermal. Le dossier de Nancy Thermal était un dossier qui avait été engagé par des usagers de la piscine Nancy Thermal et qui avait donné lieu à une décision du tribunal administratif de Nancy qui avait effectivement annulé le projet de concession à Nancy Thermal. Et c'est typiquement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire où on avait un dossier où les usagers avaient gagné, mais pour autant... il n'y avait pas de centre thermal de réaliser, mais il n'y avait plus de piscine non plus. Donc c'était une victoire, certes, sur le droit avait triomphé, mais au final, la solution n'était pas nécessairement celle qui était attendue. Et donc, en remettant tout le monde autour d'une table pour essayer de trouver une vraie solution pour permettre de réaliser un centre qui soit à la fois conforme aux attentes de la collectivité, mais aussi des usagers, eh bien, la médiation là, a permis de débloquer ce dossier. Et ça a donc mis fin au contentieux en appel devant la Cour, bien sûr, mais aussi à un éventuel contentieux indemnitaire. Le champ des possibles aurait été très, très vaste. Et là, le problème a été résolu. Donc ça, c'est vraiment un dossier qui est emblématique d'une réussite d'une médiation. Parce que le droit apporte des réponses, mais parfois, le droit n'est pas juste. Et certaines personnes obtiennent l'annulation d'un refus. C'est pas parce qu'on obtient l'annulation d'un refus qu'on obtient l'autorisation qui correspond. et ça, les administrés ont beaucoup de mal à le comprendre. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, oui, mais c'est pas pour autant qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient au départ. Donc la médiation peut parfois permettre de faire le petit bout de chemin qui leur permettra à tout le monde d'arriver à obtenir quelque chose, dans le respect, bien sûr, quand même, des grands principes de l'égalité et puis de maintien de l'ordre public. On ne peut pas non plus médier sur tout et n'importe quoi, mais on peut quand même avoir une certaine marge de manœuvre.
Quel type de sujet déchaîne les passions quand on parle de médiation
ça peut être tout. Souvent, alors il y a la médiation... rationnelle, la médiation émotionnelle. La médiation rationnelle, ça va être par exemple en matière de marché public. Une entreprise qui obtient un gain de cause à l'encontre d'une collectivité, mais la collectivité, elle aussi, obtient en contrepartie autre chose. Il arrive un moment où l'un et l'autre ont intérêt à finir ce chantier, finir ce dossier, et puis à passer à autre chose. Donc ça, c'est vraiment du rationnel. Et en matière de marché public, on a de belles réussites en matière de médiation. Et puis, il y a l'émotionnel. Ça va être le particulier qui n'est pas d'accord avec le permis de construire accordé à son voisin et qui va vouloir préserver son environnement, donc qui va essayer à tout prix de faire obstacle à ce qu'une construction se fasse à côté de chez lui. À l'inverse, celui qui veut construire, c'est peut-être aussi le projet de sa vie, donc il y tient aussi. Donc, on se rend compte parfois que en arrivant à les mettre autour d'une table, on arrive à faire admettre à l'un que de toute façon le terrain à côté de chez lui sera construit à un moment ou à un autre, et que si celui qui veut construire accepte de faire un projet peut-être un petit peu moins haut, ou de reculer sa maison de peut-être de 2 mètres, finalement, tout le monde sera content, et au final, ça fera un contentieux qui sera terminé.
Alors on arrive... au terme de cette interview. Donc je rappelle pour nos auditeurs qu'on avait déjà réalisé une émission avec Sylvie Favier et Sébastien Daven sur la Cour administrative d'appel et sur le tribunal administratif de façon générale, que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site RCN. Avant de terminer cette interview, je vais vous demander, c'est peut-être votre dernier défi, parce que... on ne peut rester chef de juridiction que 7 ans. Mmh. Est-ce qu'on peut dévoiler votre âge ?
Oui, allez-y.
Vous avez aujourd'hui 63 ans.
Tout à fait.
Pour ce peut-être probablement dernier défi, qu'est-ce que vous avez à projeter ? Et si on devait regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous retenez de votre parcours ?
Ce que je retiens de mon parcours, pour inverser la réponse, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Un parcours, ça se construit. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il faut faire des choix, Et il ne faut rien s'interdire. Je crois qu'il faut vraiment, il faut rien s'interdire. Et souvent, quand on parle du plafond de verre, notamment pour les femmes, je crois que c'est une vraie réalité. Il faut pas hésiter à se dire, et pourquoi pas, et pourquoi moi, j'y arriverai pas. Et surtout, il ne faut rien regretter. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un choix, il faut s'y tenir et pas dire « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ci ». Non, une fois que le choix est fait, de toute façon, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il faut y aller. Les regrets, ça ne sert à rien. Moi, j'ai des tas de pistes, parfois, qui se sont offertes à moi. Notamment avec mon époux, on a dit « Bon, qu'est-ce que tu fais ? Tu y vas, tu y vas pas, tu fais ci ?» Et puis, une fois qu'on a fait le choix, on ferme le dossier et on continue dans la voie qu'on a choisie. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Les regrets, ça vous pourrit la vie. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à refaire le film, vous n'avancez pas. Vous tournez en boucle et vous n'avancez pas. Donc je crois que vraiment, il faut avancer, il faut faire des choix, il faut s'y tenir, pas avoir de regrets, pas hésiter à forcer un petit peu la chance et le destin, se dire « et pourquoi pas moi ?» Et pour les années à venir, eh bien, je pense que je vais essayer de continuer un peu sur cette voie, de continuer à moi, ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est d'accompagner mes jeunes collègues, c'est de continuer à voir l'évolution de la juridiction administrative, parce que la juridiction administrative de 2023, ça n'a plus rien à voir avec la juridiction administrative de 1993 quand je suis arrivée. Et on a des enjeux considérables qui s'ouvrent à nous, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine même du principe même de certains services qui sont rendus, de certaines questions qui se posent en termes environnementaux, en termes de choix de vie, de choix de société. Et donc je pense qu'il y a effectivement des belles questions qui s'ouvrent à nous.
Et si on devait terminer cette émission par une citation qui vous tient à cœur, que vous aimez ou qui n'est
pas trop... je sais pas. Alors je ne dirais pas de qui elle est, parce que je crois qu'il y a plusieurs versions. C'est au lieu de me plaindre de ce que la rose a des épines, je me félicite de ce que les épines sont surmontées d'une rose.
Très bien. Eh bien, je vous remercie, Pascale Roussel, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et quant à nos auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine, 13h sur RCN. Au revoir.
Merci, au revoir.
She knows what's in it, she knows what's wrong. She just can't quit it, her heart's so numb. Hers to live it, but what's to run? Waits for the nighttime, there's no fun. Got a call from my brother, said he's concerned. You lied about your work and I haven't seen you in months. There's no light in your eyes and she won't open them. The hardest thing, you are not addicted to me. I'm the only thing you should need. You should be addicted to me. You should be addicted. try to defend you. It's hard not to offend you, but you're not my detender. You don't see what I do. I try to defend you. It's hard not to offend you, but you're not my detender.